Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, l'émission où on vous résume, où on parle, où on geek sur les trucs Marvel, généralement. En gros, on parle du MCU, des séries Marvel, des films Marvel, des poupées Marvel, des t-shirts Marvel. On adore Marvel, c'est ça? On dit que du bien de Marvel, n'est-ce pas, Johan?
Exactement, Marvel, c'est trop bien.
Ouais, on adore tout ce
qu'ils font. Il n'y a jamais aucun truc nul.
Jamais de la vie. Les auditeurs qui nous écoutent depuis un moment savent qu'on plaisante. On est parfaitement objectif et honnête avec tout ce que produit notre ami Kevin. Et on parle parfois d'autres choses que de Marvel aussi, genre Star Wars, DC, toutes ces choses-là. À partir du moment où il y a du super, du laser ou du punch, on peut en parler. C'est comme ça qu'on se définit. Et aujourd'hui, on va parler de She-Hulk. Attorney at Law, She-Hulk, avocate en français, je crois. La série qui a commencé il y a 2 semaines sur Disney+. Et je crois qu'on peut tout de suite se lancer. Et on adore, c'est la meilleure série de l'histoire du MCU, n'est-ce pas?
Peut-être pas.
Ah merde, tu réponds d'une manière qui me laisse penser qu'en fait, je crois que t'aimes pas du tout.
Non, si, ça va.
Ok.
Mais bon. C'est pour moi, c'est un sympa, timide, mais honnête.
Je crois qu'on a résumé tout ce qu'on pensait de la série. Merci beaucoup, Johan. C'était un super épisode de Super Laser Punch. Donc She-Hulk, Attorney at Law, qui a commencé il y a 2 semaines. On a 2 épisodes et on est dans une configuration qui est un petit peu différente de ce qu'on a eu dans les séries du MCU par le passé, parce que là, c'est présenté comme une half-hour legal comedy, donc une comédie juridique d'une demi-heure, qui est un genre... comédie juridique, il y en a plein d'une demi-heure, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment... Ils disent d'entrée de jeu, c'est léger, vous ne prenez pas trop la tête, c'est marrant... Et donc, c'est presque un moyen de réduire les attentes, je dirais. Et oui. Du coup, je te laisse étendre un petit peu plus.
C'est ça. Je pense qu'ils, enfin, heureusement en fait, qu'ils ont quand même un petit peu défini les contours parce que il y a pas une ambition incroyable. Et puis surtout, il y a une caractérisation un petit peu légère de tout ce qui se passe et des personnages. Et donc c'est clairement casse-gueule quand on connaît un petit peu les attentes des fans du MCU quoi. Là on a vraiment quelque chose de très très différent dans le ton de ce qu'on a pu avoir ailleurs. Je veux dire même dans quelque chose comme Thor où c'est aussi de la comédie finalement. Là c'est non seulement de la comédie mais c'est aussi globalement très très léger très machin. Mais ça ouvre aussi des espaces du coup de liberté intéressante. Mais du coup là où j'avais un peu le bémol de bon ouais ça va etc, c'est surtout que une demi-heure c'est très court et qu'on a eu 2 épisodes dont un qui s'évertue un petit peu à essayer de poser un contexte à tout ça, ce qui fait que je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de matière encore en fait finalement sur ce que j'attends de la série du coup. On parle de half-hour
legal comedy,
comédie juridique là. Ouais c'est ça, on a eu combien de temps de legal stuff quoi. Bye-bye. Énormément encore quoi.
C'est vrai, c'est peut-être à ce stade le reproche qu'on pourrait lui faire avec une demi-heure. Déjà, il y a 2 choses. D'une part, avec 2 épisodes, on a l'impression de ne pas avoir eu grand-chose, même s'il s'est passé quand même, évidemment, pas mal de trucs, mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu de vraie substance à la série. Et puis, d'autre part, j'ai, comme je reproche souvent à toutes ces séries du MCU, ils sont tellement contraints par le temps qu'on a l'impression que tout se passe à toute allure. C'est peut-être pas toutes les séries du MCU, mais en tout cas les dernières, je dirais, depuis un an. Tout, on a le temps de se poser sur rien, tout va à fond. Les dialogues sont rapides, les événements qui découlent les uns des autres découlent tout de suite. Donc là, ça m'a un petit peu gêné, peut-être moins que dans d'autres séries. Parce que effectivement, le ton plus léger donne le ton, justement. Et donc ça va, rien n'est trop grave. Mais ouais, ça c'est un petit peu gênant. Ceci dit, j'ai l'impression un petit peu comme toi, j'ai pas passé un mauvais moment moi devant cette série. Après le premier épisode, j'avais hâte de voir le second, et après le second, j'ai assez hâte de voir le troisième qui arrivera dans quelques jours. Je suis pas complètement fou devant ma télé comme je pouvais l'être avec WandaVision par exemple, mais je passe un bon moment quoi. C'est pas négatif du tout.
Vraiment. Vraiment, et puis, enfin, je veux dire, les perspectives sont toujours, on va dire, bien ouvertes. On a toujours, enfin, moi, ce qui va arriver, enfin, je l'attends, quoi. J'ai l'impression que là, enfin, on peut maintenant, ça y est, on peut rentrer dans le cœur de ce que le pitch pouvait proposer. Après, le temps passe vite parce qu'il n'y a que 9 épisodes finalement, donc ça sera globalement assez court, quoi.
C'est vrai que là. On a eu sur les deux premiers épisodes vraiment l'intro de deux choses. Le premier, l'intro, l'origin story de Jennifer Walters. Et le deuxième, c'est l'origin story de sa situation d'avocate. Mais oui, le cœur du sujet, on va parler peut-être un tout petit peu plus en détail de chacun des épisodes individuellement dans un instant, mais le cœur du sujet est effectivement hyper intéressant. L'idée des problèmes légaux des super-héros, ça peut être super marrant. Et c'est un aspect, comme on en a souvent, un aspect de l'univers des super-héros qui, dans un second temps, une fois qu'on a eu les traveling shots des héros qui se battent contre les méchants au ralenti, qui sont genre le premier genre attrait des films de super-héros, quand tu vas dans cet univers, dans un deuxième temps, une fois que ça a été établi, tu peux te poser des questions du genre, ok, mais légalement, tout ça se passe comment? Qui fait quoi? Qu'est-ce que... Donc ça, c'est hyper marrant. Et bon, on a eu deux épisodes pour mettre les choses en place. Je pense que c'était nécessaire parce que le personnage est particulier et il faut justifier un petit peu tout ça. Et là, les bases sont bien établies, quoi.
Oui, complètement.
Donc She-Hulk, bon, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de résumer ou de rappeler de qui il s'agit, même dans les comics. Mais bon, cousine de Bruce Banner, elle a eu une transfusion de sang, elle se transforme en Hulk, et contrairement à Bruce, elle contrôle complètement à 100% son alter ego, et à vrai dire, c'est plutôt même qu'elle n'a pas d'alter ego, elle est She-Hulk, et She-Hulk is her. Elle se transforme physiquement, mais pas du tout mentalement, contrairement à Bruce. Et dans les comics, c'est assez fidèle à ce qu'on voit dans la série. On est vraiment chez un personnage qui n'est pas hyper intéressé par la vie de super-héros et veut vraiment être une avocate et donc se plonge dans... les aventures légales que ça peut impliquer. Peut-être, donc, premier épisode un petit peu plus en détail, et la première chose, je crois, qui choque dans le premier épisode, c'est le fait qu'elle s'adresse à l'audience, c'est-à-dire à nous, à travers la caméra. Ce qui, je crois, pourrait laisser penser à certains que ça a des significations plus importantes dans le MCU. Est-ce que c'est une sorte de truc parallèle, de super-héros, de je sais pas quoi, qui fait qu'elle voit l'audience? Est-ce que, Deadpool le fait tout le temps. She-Hulk le faisait d'abord, d'ailleurs, dans les comics. Mais Wanda, à un moment, elle fait ça, non? Dans Doctor Strange 2, je crois. Elle regarde l'audience.
Des regards quatrième mur. Ouais, il y en a, mais là c'est... Enfin, l'adresse, c'est carrément... Ouais. Adresser, c'est,
Non, bien sûr, mais je me demande s'il y a un Fred, tu vois, dans le MCU, où à un moment, ça va vouloir dire quelque chose, ou est-ce que c'est pour préparer l'arrivée de Deadpool ou ce genre de truc. Mais,
moi, je pense que c'est vraiment purement stylistique, quoi. Il y a un comics où elle le fait, je crois, que c'est pas systématique dans les comics, mais il y a un
She-Hulk, comics... She-Hulk, oui, elle le fait. Non, si, elle le fait depuis un moment.
Mais en tout cas, je crois pas que c'est dans les comics, je crois pas que c'est une signification...
Non, je veux dire, pas particulièrement, mais elle fait des trucs du genre, elle déchire, on voit dessiner le fait qu'elle déchire une page pour aller dans la suivante, ou tu vois, ce genre de trucs, elle joue vraiment avec le média comics. Et du coup, bon, ça c'est marrant, je trouve que ça passe bien. Et puis on a l'origin story, donc, de She-Hulk, et l'accident avec, en voyant le vaisseau de Sakaar, dont on pourra parler d'ailleurs dans un instant un petit peu plus. Qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont ça se passe, sa transformation en She-Hulk, avant de passer à son entraînement, entre guillemets ?
Bah, disons que moi, je connaissais mal le personnage dans les comics. Je savais que c'était une histoire de transfusion.
Dans les comics, je crois qu'elle est malade, en fait. Et là, c'est...
Ouais, voilà. Là, ils ont fait ça un peu à la sauvage. Je m'attendais... Enfin, j'avais vu des extraits de l'accident de voiture. Je m'attendais à ce que, du coup, il faille la sauver, qu'il se fasse une transfusion pour la sauver. Là, c'est juste du sang versé, machin. Ouais.
Trois gouttes, ça suffit, sachez-le.
Un petit peu cavalier, mais on va dire que c'est acceptable, quoi. Hein. Je veux dire, on se pose pas non plus des milliards de questions. Hein. Ça, c'est arrivé, elle s'est transformée. Il explique juste après que, normalement, ça aurait censé la tuer. Mais que son ADN proche de lui fait que ceci, cela. Donc, c'est un petit peu, tu sais, c'est du charabia scientifique de hollywoodien. C'est acceptable, quoi. Je veux dire, on en a avalé des couleuvres bien plus grosses que ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Effectivement, le plus important, c'est qu'elle soit devenue Hulk. C'est acceptable, quoi.
C'est genre blablabla, bla, bla, et donc t'es She-Hulk. Ok, d'accord. Bon.
Ouais, voilà. C'est un peu ça. Et du coup, en fait, c'est ça. Alors, du coup, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une petite contradiction, c'est que on aurait pu prendre la série tout de suite où elle est She-Hulk et avocate et qu'elle mentionne rapidement, tu sais, ce qui avait pu se passer. Ils ont fait le choix, donc elle le dit clairement. Elle fait oui, alors on va évacuer les choses tout de suite. Je vais tout de suite vous raconter comment tout s'est passé pour qu'on puisse après rentrer dans le vif du sujet. C'est ce qu'elle dit.
Ouais, pour qu'on puisse se concentrer sur
mais finalement,
comédie, legal show.
Mais finalement, l'incident, il n'est pas non plus. Enfin, tu vois, c'est de toute façon, c'est anecdotique quand même, en fait. Donc bon.
Pourquoi mais je crois pas, que c'est, je peux comprendre qu'effectivement, ça aurait été, disons, artistiquement un petit peu plus audacieux de ne pas du tout expliquer pourquoi, avant, je sais pas, 3-4 épisodes, ils auraient pu placer, par exemple, cet épisode en épisode 4 ou 5 et dire, ok, bon, on va vous expliquer parce que je sens que ça vous titille, bon.
Mais, ouais, voilà.
Mais oui, c'est pas... je pense quand même que les gens se seraient posé la question parce qu'on sait plus ou moins qui est She-Hulk. J'imagine que la plupart des gens qui regardent cette série connaissent un petit peu le personnage. Et puis, à vrai dire... Oui, un petit peu comme tu le dis, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, c'est genre, elle est She-Hulk, voilà, c'est tout. Mais en même temps, le fait qu'elle ne soit pas, elle n'est pas cette, tu sais, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, personnalité secondaire qui la contrôle, bon, peut-être qu'il faut le préciser bien clairement. Et d'ailleurs, ça nous amène à ces très courtes mésaventures en She-Hulk où elle ne se souvient pas vraiment de ce qui lui arrive. Et puis le fait que elle maîtrise toutes les Hulkeries bien mieux que son cousin. Et c'est pas vraiment l'explication, mais une sorte de thread, de through line, de choses qu'on note sur tout l'épisode, et à vrai dire même dans le deuxième épisode, qui est le fait que elle maîtrise tout ça, peut-être en partie parce que en tant que femme, elle a tout le temps besoin de faire attention, elle est tout le temps stressée, énervée, etc. Et il y a une représentation de la question du sexisme dans la société qui est présente en filigrane, ou peut-être un petit peu plus qu'en filigrane même, mais qui est présente sur tout le premier épisode et un petit peu le deuxième.
C'est complètement la thématique, même quasiment des deux épisodes, en fait, parce que ça commence où justement elle est un peu diminuée.
Oui, c'est vrai que ça commence avec « Non, mais tu fais trop, sois moins émotionnel, fais comme ci, fais comme ça. »
Ouais, c'est ça. Et puis, tu as la scène, bah, justement, la scène où elle se réveille, enfin, où tu sais, elle est complètement, je me rappelle plus du contexte, mais elle se retrouve dans un bar où, complètement déboussolée. Et il y a un groupe de, femmes là, qui prend soin d'elle dans les toilettes, la coiffe, la maquille, elle lui file des chaussures et tout ça. Et puis, juste après, elle sort et hop, maintenant, c'est le groupe de mecs. Et là, du coup, c'est hostile, etc. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, c'est très clair,
oui, on est d'accord.
C'est très clair.
Mais du coup, la question, c'est est-ce que, parce que c'est même si je disais en filigrane, c'est pas hyper subtil, la question, c'est est-ce que c'est un petit peu trop, c'est un petit peu trop grossier, la manière dont c'est fait, ou est-ce que ça passe? Les internets sont assez partagés. Je mets de côté les personnes qui en font une sorte de, voilà. On va même pas en parler, mais l'internet est assez partagé sur est-ce que c'est un peu grossier ou est-ce que c'est assez on point. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, alors, je trouve que ça peut être les deux à la fois, en fait. On est quand même dans une comédie des fois, cette thématique est prise sous l'angle de la comédie, comme justement le moment dans les toilettes avec les autres filles. Mais il y a aussi besoin, parfois, de faire des choses un peu plus premier degré, on va dire, pour bien marquer que le sujet il est présent et aussi présent sérieusement, sans que ça vampirise non plus l'intrigue. Hein, tout ça avance, il y a pas de souci. Ouais. Moi, j'ai jamais pensé à un seul moment quelque chose comme ils en font trop ou des trucs comme ça. C'est avec le personnage, ça fait partie d'elle, et puis elle rencontre des obstacles liés à ça. C'est plutôt même dans la réalité, les femmes au boulot, c'est un peu ça aussi. Enfin, c'est complètement ça même, on va dire. Donc, du coup, non, je vois pas le trop, en fait.
En fait, la question, c'était...
La question, c'est est-ce qu'ils appuient trop là-dessus?
C'est ça, est-ce que les ficelles sont trop... En gros, c'est sur une échelle de subtile et efficace à la scène dans Endgame où toutes les super-héroïnes arrivent et disent « Mais elle n'est pas seule, tu vois, contre les armées de Thanos », qui, là, était un petit peu moins subtile, on va dire, où on se situe. Moi personnellement, j'ai trouvé ça, effectivement, ils y allaient un petit peu, c'était ils sont un peu heavy-handed sur le truc, ça me gêne pas plus que ça, mais j'ai trouvé qu'ils auraient pu être un petit peu plus subtils ou un petit peu mieux amener la chose. En même temps, j'ai fait un mini sondage complètement empirique, complètement anecdotique plutôt, sur Twitter, en demandant aux femmes qui me suivent si elles trouvaient que c'était vrai et que c'était comme ça ou s'ils en faisaient trop. Il y avait plus que la majorité qui disait, bon, soit les deux à la fois, mais plus que la majorité qui disait non, si, c'est exactement ça. Genre, les toilettes, c'est comme ça, c'est genre le sanctuaire où les femmes, pendant un moment, peuvent se céder les unes les autres. Peut-être que c'est plus particulièrement aux États-Unis, mais. Et puis, c'est assez juste, quoi. Elles se sont senties, même si c'est dit de manière un petit peu brute, elles se sont senties assez entendues et représentées dans le truc. Donc, un autre aspect, qui est intéressant pour moi, c'est le fait justement que comme elle n'a pas d'alter ego, c'est pas là que se situe son challenge dans la série. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire « Ah, mais du coup, elle n'a pas de difficulté, c'est pas intéressant comme personnage parce qu'il n'y a pas de... Elle n'a pas à maîtriser, en fait, comment dire ?» Il n'y a pas la question qui se pose à tous les super-héros quand ils ont des pouvoirs, c'est la relation qu'ils ont à leur pouvoir et maîtriser le pouvoir pour qu'ils le dominent plutôt que le pouvoir ne les domine. Et là, elle n'a pas du tout, elle saute complètement cette étape. Et du coup, son problème à elle se situe complètement ailleurs. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que Hulk, on l'a déjà eu, il a cassé des villes plusieurs fois, il a machin... Elle, c'est pas ça son problème. On n'a pas besoin de revoir l'épisode entier où on apprend à utiliser ses pouvoirs, machin. Non, elle, c'est autre chose. Elle, c'est que c'est le premier super-héros du MCU, en tout cas, qui n'a aucune envie d'être un super-héros. C'est vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Moi, je suis une avocate, machin. Et peut-être que c'est le deuxième épisode, du coup, cette question. et qu'avant d'y venir, on y touche un tout petit peu avec l'idée qu'elle maîtrise ses pouvoirs dans le premier épisode, et je trouve ça très drôle. J'ai même trouvé que le combat entre Hulk et She-Hulk n'était pas vraiment nécessaire. Pourquoi est-ce qu'ils se sont emmerdés à faire ce truc sur l'île? Bon, ouais. Je trouve que c'était dispensable. Mais du coup, pour finir avec le premier épisode, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur She-Hulk directement, mais il y a le vaisseau de Sakaar dont on peut parler aussi.
Oui. Alors moi, j'étais assez surpris. J'étais parce que du coup, ils avaient posté justement la scène d'intro où ils font l'accident sur, je sais pas, sur YouTube ou Twitter. En tout cas, j'avais vu l'extrait, mais ils s'étaient gardés de montrer qu'il y avait le vaisseau. Et du coup, j'étais assez surpris. Bon, du coup, maintenant, on a déjà eu en fait la suite de cette scène-là dans l'épisode d'après. Mais du coup, effectivement, il va y avoir. Alors, maintenant, je sais pas si on va avoir encore des nouvelles dans la suite à partir du troisième épisode.
Je crois pas. C'est très très gros ce qui se passe là.
Bah ouais, là, clairement.
Est-ce que tu sais du coup ce que ça amène, ce que ça signifie ça?
C'est la planète de Thor Ragnarok, celle où il s'était paumé avec Hulk. Normalement, c'était inspiré à l'époque de planète Hulk, où justement il fait sa vie là-bas, etc. Il y a eu pas mal de reproches justement à Thor Ragnarok des fans, en tout cas de ceux qui avaient lu le comics. Moi, je l'ai pas trop aimé ce comics, mais de fans qui étaient très déçus en fait, qui gâchent la cartouche de Planète Hulk et que finalement il n'y ait pas Planète Hulk au cinéma. Potentiellement, qui rattrape le coup en renvoyant Hulk là-bas pour aller y faire Planète Hulk en film.
Alors, ce que c'est Planète Hulk, c'est quand même hyper un élément hyper important de la vie de Hulk, c'est que, de l'histoire de Hulk dans les comics, c'est qu'il va sur cette planète et il devient le gladiateur suprême, machin, et ensuite,
Il faut le préciser que c'est pas qu'il va sur cette planète.
Oui, pardon,
les Avengers l'envoient là-bas parce qu'ils en ont ras-le-bol qu'il casse des trucs sur Terre et donc ils l'exilent aléatoirement dans l'espace. Quoi.
C'est ça. Ils prennent une décision vraiment difficile à prendre. C'est les Illuminati d'ailleurs, pas juste les Avengers. Ouais. Les Illuminati qui sont composés donc de Tony Stark, Reed Richards, des Quatre Fantastiques,
Namor,
Black Panther, Namor, etc. Qui disent c'est plus possible avec Hulk, il peut pas se contrôler, il casse tout le temps, on va l'envoyer dans l'espace. Il atterrit sur Sakaar, il devient suprême gladiateur machin, il mène une rébellion et il devient une sorte de roi de la planète. C'est beaucoup plus violent que dans Thor Ragnarok. Et c'est ça déjà, c'est intéressant. Mais ce qui vient après, je ne sais pas s'ils iront jusque-là, c'est encore plus intéressant pour un potentiel truc du MCU, c'est World War Hulk. Hulk qui, d'une part, a un enfant sur Sakaar, qui c'est sans doute ce dont on l'a prévenu là, on imagine que c'est ce dont on l'a prévenu avec le vaisseau. Oui. Qu'il est allé parce qu'on lui a dit « Mais papa, t'es passé où ?» Donc il revient et puis on va voir ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'ils sont au milieu d'une révolution et que ça va être un film avec Hulk. Parce que les droits des films solo de Hulk reviennent à Marvel dans un an, si je ne me trompe pas. Donc peut-être qu'ils vont faire enfin un film solo parce que jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas faire un film solo. Hulk ne pouvait être qu'un personnage secondaire dans un film. Sinon, ils n'avaient pas le droit. Mais peut-être qu'ils vont faire un film ou une série ou quelque chose et qu'ils vont passer à son fils. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, son fils. Scar, son fils, je ne sais plus. Et qu'ils vont passer à son fils le flambeau de Hulk. Parce que contrairement aux comics, dans le MCU, ils ne peuvent pas garder les mêmes super-héros ad vitam. À moins de changer l'acteur, mais bon. Et du coup, quand il revient sur Terre, Hulk, il est vraiment, vraiment pas content. En plus, je sais plus si c'est sa femme qui est morte sur Sakaar, genre de choses.
On va pas le dire. Enfin, je vais pas le dire parce que si jamais ils font un planète Hulk,
peut-être. Okay.
Voilà. En tout cas, il revient pas content et il y a effectivement un énorme combat entre les Avengers et Hulk quand il revient fâché.
C'est ça. En gros, c'est toute la Terre contre Hulk. C'est World War Hulk. Et ça peut être très drôle comme film. Mais bref, donc ça, c'est ce que ça pourrait amener comme film. Et ça a l'air d'être... Enfin, comme film ou comme projet, ça a l'air d'être confirmé avec ce truc. Peut-être... J'espère qu'ils ne vont pas juste en faire genre un dessin animé, tu vois, qui racontera ça juste en animation. Mais... D'ailleurs, à propos d'animation...
Les projets sont bien planifiés. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, c'est pas tout de suite. Quoi. Clairement, si ça mène à quelque chose, on se donne rendez-vous dans 3-4 ans minimum.
Bah, ça pourrait être l'un des films de la phase 5. Non, oui, de la phase 5 ou 6. Oui, c'est la phase 6 où il y avait plein de films qui n'étaient pas présentés.
On a que Avengers 1.
C'est ça, on peut imaginer que ça serait un film à ce moment, dans la phase 6, potentiellement. Et d'ailleurs...
Pour revenir à... Ouais. Bah, vas-y, dis.
Non, j'allais dire, avant de passer au deuxième épisode, je voulais te poser la question sur les effets spéciaux, les CGI qui... et leur qualité.
J'ai vraiment pas d'avis. C'est-à-dire que j'étais d'accord sur les premières bandes-annonces que c'était un petit peu cheap. Là, moi, je trouve que c'est très correct. Il y a des soucis pour moi. Les vrais soucis, c'est justement quand ils sont ensemble, tous les deux, sur l'île, où tout est en image de synthèse, à la fois eux et le fond. Je trouve que ça, c'est un rendu qui est à la limite un petit peu du désagréable. Mais en soi, le modèle du perso de She-Hulk, alors, je trouve que c'est dommage. Enfin, je trouve que la DA est un petit peu grossière, quoi. Je trouve ça un peu dommage d'avoir fait ce perso de cette façon-là, on va dire. Complètement féminisé avec les cheveux comme ça. Enfin, je veux dire, ouais, je trouve que ça dérive d'un, on va dire, des comics de l'époque où c'était contestable, et je trouve que ça l'est toujours un peu aujourd'hui.
Ah ouais, qu'est-ce qui était contestable, les cheveux
C'est le fait que t'as Hulk qui est complètement monstrueux machin, et dès que c'est une femme, dès que c'est She-Hulk, il y a ce dimorphisme qui oblige un peu les designers à garder une silhouette
très en courbe, oui, d'accord,
voilà, c'est ça, oui. Bon, après c'est comme ça, mais sinon purement effets spéciaux, moi j'ai vraiment aucun problème en fait, hein.
D'accord.
Je trouve que ça passe aussi, c'est
pas au niveau des meilleurs films, clairement on est plus qu'un cran en dessous, j'ai l'impression de voir c'est à peine mieux que le premier film du MCU de Hulk. Donc bon, c'est clairement pas incroyable, mais bon, ça passe, voilà. C'est pas un niveau où ça m'empêche d'apprécier la série.
Mmh. Oui, clairement. Non, ça passe. Bah, du coup, juste pour rester un peu sur ce premier épisode avant d'aller, ouais, donc du coup, on a toute cette partie-là sur l'île. Moi, c'est vraiment le moment où... où je me suis un petit peu ennuyé, quoi. Il y a le combat qui est très superflu.
C'est tout l'épisode, la partie sur l'île.
Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça qui était dommage, quoi. C'est que, du coup, moi, j'étais un peu laissé sur le côté avec des blagues de Raw. Bon,
voilà. Ah, tu vois que ça te fait rire, ça te fait bien rire.
Ça te fait rire maintenant, mais... mais sur le coup, j'ai levé un peu les yeux au ciel, quoi, tu vois. Ouais. Donc, non, c'était pas... J'ai trouvé ça pas top, mais en même temps... Il y a un truc notable, et ça, c'est un truc que j'ai l'impression qu'on répète aussi depuis quelques temps maintenant, mais ces nouveaux persos qui arrivent dans le MCU, je trouve qu'ils sont vraiment excellents, quoi. L'actrice là, qui incarne Jennifer Walters, c'est, j'ai l'impression qu'elle est au maximum possible pour ce personnage-là. Ouais, c'est ça. Et ça marche d'enfer, elle est super convaincante, même sous son maquillage de CGI. Donc non, ça marche bien, et du coup quand il y a des vannes, je trouve, et quand il y a des autres que celles d'Héro, je trouve qu'elle a un bon timing de comédie, et que ça marche bien. Il y a toute l'histoire autour de la virginité de
Captain America. Ah oui, on en a même pas parlé de Captain America. Voilà.
Et puis même les parties un petit peu de chamaillerie avec Bruce et tout, ça marche super bien, quoi. Dire, là on a encore à nouveau un super super personnage avec qui on a envie que ça soit cool maintenant que le personnage est cool, et j'espère que du coup la suite sera, on va dire, un petit peu à la hauteur du pitch, justement comédie légale, etc., quoi.
Je suis assez d'accord, je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est l'actrice de Orphan Black, pour ceux qui pensaient l'avoir vue quelque part. C'est Tatiana Maslany, c'est celle de Orphan Black. Mais je suis assez d'accord, je trouve qu'elle est bien, ça passe bien, c'est pas trop mal écrit, c'est marrant, c'est léger. L'affaire avec Captain America, c'est drôle. D'ailleurs, elle a les fesses de Captain America sur son fond d'écran, sur son téléphone, pour ceux qui l'ont remarqué.
Je n'ai pas remarqué.
Et du coup, ça passe bien. Et je suis curieux. Je trouve qu'elle incarne bien la frustration et le conflit de « je ne veux pas être un super-héros, Mais là, en plus, le truc qu'elle dit au début, la responsabilité, enfin, qui est complètement on the nose, qui est hyper clair, qu'elle parle de la série elle-même, est-ce qu'elle va devoir être utiliser ses pouvoirs ou pas? Bah, on va voir comment ça va se développer. J'espère que ça va quand même se passer dans les tribunaux un petit peu aussi. Mais oui, la fin de l'épisode 1, quand Titania, dont on apprend ensuite que c'est la première influenceuse super-powered, qui est encore une idée très, très drôle. Moi, je ne sais pas qui c'est Titania dans la... Enfin, je ne la connais pas bien, je ne connais même pas très, très bien She-Hulk, en fait. Titania dans les comics. Mais le fait d'en faire un super-héros qui choisit d'être une influenceuse, c'est hyper malin, quoi. Et bon, le fait qu'elles doivent sauver les jurés... bah oui, elle est bien obligée d'être. Et donc, ça va être le conflit dans la série. Je trouve que c'est intéressant. Et du coup, on arrive à l'épisode 2 où bah, les choses se passent moins bien et où elle doit... Je vais faire un tout petit détail qui me frustre beaucoup de science. Quand elle se transforme, et évidemment, c'est le cas et c'est le cas depuis Hulk, mais quand elle se transforme, elle gagne de la masse. Et on ne sait pas d'où elle vient, cette masse, parce que la masse qu'elle a dans le corps, bah, elle peut s'étendre et devenir plus dure et tout ça, mais c'est difficile de la rendre plus lourde. D'où elle vient, cette masse? Et bah, la question se pose aussi pour Hulk, bien sûr.
Peut-être qu'elle absorbe les atomes de l'air et qu'elle les réarrange.
Alors, ça fait beaucoup d'atomes quand même. Hein. je veux dire, ça crée un choc de vide à un moment si elle absorbe autant pour... Bon, bref. Peu importe, c'est les trucs dont il ne faut pas se soucier. Mais du coup, l'épisode 2, qu'as-tu pensé de cet épisode 2 où elle est renvoyée du... Parce qu'elle est DA, elle est District Attorney, enfin Assistant DA, ce qui veut dire qu'elle travaille pour l'État. Et elle se fait renvoyer de son poste de DA. Ouais. Et du coup, bah, ensuite, elle se met à boire et c'est la merde parce que personne ne veut l'engager.
Ouais, bah du coup moi, bah, à nouveau j'étais déçu. Je me dis mais je voulais des trucs d'avocat, pas des trucs de chercheur d'emploi. mais non, finalement ça s'est bien passé parce que bah il propose autre chose. Donc effectivement elle va retrouver un emploi dans l'épisode, donc ça va. Et puis il y a toute cette partie avec sa famille en fait. Et je m'attendais pas du tout à voir sa famille et je m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Et je trouve que c'est un moment
famille de
plus
en
bien.
Plus. Ouais, c'est vraiment pas des hillbillies non plus, mais c'est vraiment des ploucs quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis du coup dans cette famille de ploucs là, t'as plein de mécanismes en fait qui sont en place. Et ça en a fait une famille un peu attachante, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand elle arrive, c'est un peu relou parce que bon, t'as le cousin, c'est quoi, c'est le cousin ou le frère?
Ouais, c'est le cousin. Frère, oui. Ouais, c'est le cousin. Qui est quand même manager chez Best Buy, hein. Je veux dire, c'est pas juste un slacker random.
Bon, après, je trouve que c'est peut-être un peu condescendant pour les managers de Best Buy, mais.
Non, mais moi je trouve au contraire. Moi j'ai trouvé que c'était justement, tu vois, la famille. Bon, c'est pas des gens méchants, tu vois, mais t'as l'impression qu'effectivement ils sont un petit peu beaufs, quoi. Mais lui, ouais. Tu t'attendrais justement à ce qu'un personnage comme ça soit représenté comme le mec qui est l'éternel. Ouais. Je travaille dans un, enfin dans ces stéréotypes qui datent un peu. Genre, je travaille au magasin de location
livreur
vidéo,
de pizza,
tu vois, livreur de pizza éternel. Ouais. Et au contraire, ils disent bah non, il est devenu manager chez Best Buy. Enfin, c'est pas dans son magasin de trucs, donc justement, c'est un type qui est capable, même si après, dans les scènes post-génériques, il est là, ah, mais ça, j'aurais pu le faire, tu vois. Il a l'essence du beau un petit peu relou, mais cette petite truc montre que, bah non, c'est des. Et puis, pareil avec le père, je veux dire, c'est juste oui, c'est la mère, elle est gentille, le père, il se soucie d'elle, tu vois, c'est au contraire assez chaleureux, je trouve, même si bah, tu sens bien que oui, c'est un petit peu des gens qui sont. Qui ont l'air d'être un petit peu des beaufs, quoi.
Ouais, en fait, c'est ça, quand tu t'imagines la famille de Bruce Banner, tu t'imagines pas du tout ce type de famille-là.
Exactement. Ouais. Et entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais Bruce Banner, dans les comics, l'une des raisons pour lesquelles lui, il a justement cet alter ego, ça vient d'un traumatisme d'enfance violent. Il a eu une enfance très compliquée, très machin, etc. Et c'est jamais dit explicitement, je crois, mais c'est un petit peu insinué que, en fait, c'est pas que Hulk est une conséquence inévitable de ce qui lui est arrivé, c'est que ça s'est manifesté comme ça. Évidemment, il y a beaucoup d'instabilité, mais ça s'est manifesté comme ça parce que lui, dans son historique personnel, il a ce traumatisme qui fait que ça a créé ça. Et du coup, elle, qui a l'air d'avoir une famille aimante et présente, bah, elle n'est pas... Et en plus, avec ses histoires de peur permanente et de stress permanent, bah, font que ça ne se passe pas du tout comme ça pour elle non plus.
Quoi. Dans les comics, c'est assez explicite, ça, hein, là, pour la partie de Bruce. C'est assez, très clair, il a plusieurs personnalités qui sont liées justement à son enfance, etc. Donc, il n'y a pas trop de mystère. Enfin, il n'y a plus trop de mystère là-dessus. Après, oui, dans la MCU, ils ne se sont pas aventurés là-dessus parce que du coup, ça pose plus de questions que ça apporterait de réponses pour justifier la différence entre les deux personnages. Mais oui. Et puis, du coup, cette famille, ça marche bien. Il y a des moments à la fois un petit peu touchants, bah, avec le père, là où il la prend à part, voilà, machin, etc. Et tu sens que bah, du coup, elle a un soutien, un vrai soutien dans cette famille, où au début, bah, elle y va un petit peu en mode, c'est, comme certains d'entre nous, des fois, ont des parties de la famille où on y va en traînant des pieds, parce qu'on va se prendre des remarques, hein, c'est quand le deuxième enfant, etc. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance.
On s'occupe pas d'expérience.
J'espère qu'ils vont écouter l'épisode, là. et donc, ça faisait quelque chose voilà, de bien, bien écrit, je trouvais. Et du coup, derrière, bah, ça permet de renvoyer après le personnage vers bah, du coup, l'acquisition de ce nouveau job, de cette nouvelle opportunité. Du coup, c'est assez marrant parce qu'elle se fait virer à cause justement de sa transformation en She-Hulk, où le mec, il est désolé, quoi. Il dit bah oui, t'as fait ce qu'il fallait, mais on peut pas garder un avocat comme ça. Ça marcherait pas les jurys, etc. Enfin. Ça pose
de vrai, des problèmes. En plus, le pire, c'est que voilà, effectivement, c'est un peu compliqué.
C'est compliqué, mais du coup, elle trouve du boulot aussi grâce à ça. Du coup. Donc, et du coup, elle va. On lui demande de prendre le cas de Émile. Alors, c'est quoi son nom de famille ?
Blonsky.
Blonsky. Et là encore, scène étonnante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Parce que du coup, moi, j'avais un souvenir assez précis quand même d'Emile Blonsky du premier Hulk. Je trouve que c'était un peu malhonnête ce qu'ils ont fait. Je sais pas toi ce que t'en penses d'en faire un mec comme ça là, tout gentil.
Moi je suis pas si je trouve pas ça si problématique. Et c'est pas la première fois. J'ai pas un exemple précis. Il faudrait que j'y repense, mais c'est pas la première fois qu'ils changent un petit peu des trucs par rapport à. C'est comment dire. Tu vois une courbe. Et tu extrapoles la position de la courbe à partir de ce que tu as vu au début. Et tu dis, bon, ben, OK, si ça continue comme ça, c'est là que ça devrait être. Mais la courbe, elle peut continuer à bouger, tu vois, elle peut continuer à s'infléchir, machin. Et donc.
Je sais où tu as lu ça, Patrick.
Ah bon?
Ça vient de Factfulness.
Ah bon? Ah non, non, pas du tout. ça vient juste de Patrick. Mais vous devriez quand même lire Factfulness, évidemment.
Mais il y a cet exemple en plus qui est dedans, c'est pour ça.
C'est vrai? Il y a cet exemple?
Oui, oui.
Ah bah, d'accord, ok. Tu vois, inconsciemment, je l'ai intégré.
Sur la croissance de la population, pour être précis. Tu vois, j'ai fait mes devoirs.
C'est très, très bien. Je t'applaudis. Bravo, Johan. Mais je veux dire, dans ce que le parallèle que je fais ici, c'est qu'on voit un personnage pendant un moment, tu vois, quelques jours, et on se dit, bah, c'est tout le personnage. La personnalité de, de ce personnage, c'est ça. Mais dans la réalité, évidemment, c'est qu'une photo, tu vois, de ce qu'il pouvait être. Et puis, ça fait quand même, quoi, 15 ans. Abomination, le type, il peut changer. Et on peut comprendre aussi, tu vois, c'est un petit peu... Alors, ça raccroche un petit peu les wagons, mais il le voulait, ce sérum, machin. Mais on peut imaginer qu'il l'a influencé aussi. Et puis, etc., en tout etc. Cas, donc.
Ce qui est clair, c'est que son argument, il est très très bien, son argument. Du coup, il est aux ordres, on lui a injecté le truc, etc. Enfin, je suis complètement d'accord avec lui. Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que, dans ce fameux film, et c'est assez étrange hein, qu'il fasse revenir ce personnage quand on voit à quel point la MCU essaie de se tenir quand même assez éloignée de la version Hulk qui a été... Edward Norton. Mais du coup, effectivement, dans le premier film, ce personnage-là, il était complètement en pure recherche de puissance et de pouvoir. Il était complètement avide de tout ça, quoi. Donc, je trouvais ça à la fois excellent, hein, et déroulant. Bah, en plus, c'est la façon dont ils font venir dans la prison, quoi. Je veux dire, ouais. La prison, elle est super. Les triples verrouillés, on prévient, on dit de faire attention comme si c'était Hannibal Lecter.
Ouais, c'est complètement la référence. Quoi. D'ailleurs, elle dit.
Il arrive, et puis le mec, il est tout zen là, namasté, tout ça. Bon.
Bah, namasté, tu sais, c'est aussi ce qu'a fait Bruce Banner. Hein. Il a beaucoup fait de méditation, et le truc, c'est que il est tout à fait possible que Emil Blonsky qui joue un peu la comédie, tu vois, et que au fond il est quand même l'esprit. Et puis on peut imaginer que ça donnera les Thunderbolts à un moment, et que les Thunderbolts c'est pas juste des gentils, tu vois. Mais en même temps, comme tu le dis, son argument se tient. Et puis quand on constate ce qui s'est passé entre Hulk et Abomination. Ok, ils sont battus dans Harlem et dans New York et ils ont tout cassé. Mais enfin, Hulk, il a quand même. C'était où ? C'était à Lagos. Il a détruit la ville. Il a cassé plein de choses à de nombreuses reprises. Et maintenant, c'est une sorte de héros que tout le monde aime, bidule. Alors que Blonsky, c'est le gouvernement qui lui a injecté des trucs. Et on le tient dans une prison depuis 15 ans. Tu vois, c'est un peu. Je peux comprendre qu'il soit un peu amer en même temps. Mais et puis tu sens qu'il est un peu instable aussi, quoi, l'histoire des 7 soulmates qui lui ont acheté une propriété quelque part. Il veut aller au soleil,
ouais.
Tu vois, c'est pas un personnage qui a complètement, en même temps, 15 ans dans une prison comme ça, j'imagine que ça te déboulonne un petit peu la tête aussi. Donc on peut comprendre qu'il rêve de ces femmes qui se prélassent à côté de lui au soleil dans sa villa, quoi. Mais ouais, du coup, ce passage était un petit peu inattendu, c'est vrai.
Ouais, et puis du coup, bah, ça donne lieu justement après à la discussion qu'elle va avoir après avec Bruce, que j'ai trouvé excellente en fait, où justement il sous-entend que Hulk qui dit je suis plus tout à fait la même personne qu'à l'époque. C'est très savoureux quand on sait que c'était un autre acteur et complètement une autre caractérisation du personnage. Et puis voilà, elle va prendre le job. Donc là, maintenant, je suis assez curieux de savoir justement ce personnage de le Blonsky, en fait, comment ça va se dérouler pour lui. Est-ce qu'il va être un peu important dans. Est-ce que ce case va couvrir toute la série, ou est-ce qu'on va avoir droit à plusieurs. Enfin, je me pose ces questions-là, quoi.
Ouais. Est-ce qu'on va avoir droit à plusieurs, genre, half-hour procedural comedy show,
voilà.
Tu dis, il y a une. Un case par épisode, quoi, normalement, ou tous les deux épisodes. Je suis d'accord. Et puis, à la fin, on a cette complication qui nous place d'ailleurs temporellement la série au moment de Shang-Chi.
Alors, oui et non, parce que... J'ai vu effectivement, on m'a dit, ça se passe à ce moment-là, mais en fait, c'est la vidéo qui a leaké. Mais du coup, l'effet de d'abomination.
Ah, peut-être que la vidéo a leaké et qu'elle s'est passée il y a longtemps.
Ouais. Mais il y a quelques temps, parce que du coup, il y a aussi des news qui parlent de la main de l'éternel qui est mort, Tiamut.
Pourquoi est-ce qu'il y a un mec géant qui sort de
voilà, l'océan. C'est ça. Donc il y a ça aussi, donc ça se passe un petit peu après, quoi, un peu après tout ça. Donc moi je pense que la vidéo c'est pas genre, parce qu'en fait il y en a qui ont cru et ils ont peut-être raison, hein, je j'ai pas la réponse, mais qu'elle s'est entretenue avec lui, elle est partie après en pour savoir justement si elle allait prendre ou pas le cas, et elle raccroche et elle découvre que à l'instant où elle le parle, le mec s'est évadé de la prison, quoi.
Ouais.
Mais c'est à mon avis c'est pas le cas. À mon avis, ça fait quelques jours, deux semaines, mois, il a fait ça avec Wong et la vidéo sort aujourd'hui. On verra, hein, on aura la réponse.
Moi je crois
assez bientôt.
Moi je crois que ça s'est passé à ce moment, parce que une vidéo comme ça, enfin vu le monde qu'il y avait dans l'arène, ça sort tout de suite, ce genre de truc, mais peut-être pas. Mais moi je crois qu'ils vont minimiser le truc, parce que ensuite Wong le ramène dans la prison. Et ils travaillent ensemble, peut-être même que c'est Wong qui lui a appris à méditer ou Dieu sait quoi. Et puis il va dire, non mais je suis parti, je suis revenu de moi-même, j'aurais pu m'enfuir, je sais pas quoi. Ou, tu vois, ils vont un petit peu minimiser le truc, mais ça complique un peu le cas, du coup. Mais oui, je suis comme toi, moi j'espère qu'il va y avoir vraiment des questions légales. Je comprends qu'une série du MCU, il va forcément falloir qu'il y ait du combat et du machin. Mais moi, j'adore les séries légales. Donc, les séries d'avocats, c'est
les combats, on est servi dans tout le reste des films. Quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve ça dommage.
Mais je crois qu'on va en avoir. On ne va pas pouvoir y couper.
Ouais, mais tu vois, si c'est juste... Moi, à la fin de l'épisode 1, où elle met, une patate et puis c'est fini, tu vois. Si c'est des petites altercations comme ça, ça me va. Mais j'aimerais pas que le cœur de l'intrigue se résolve par combat, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Il faut que ça se résolve par des arguments légaux, tu vois. C'est ça que...
C'est complètement d'accord avec toi. C'est ce que je voudrais aussi. J'y crois moyen. Je crois qu'il va y avoir les gros combats à la fin. Mais on verra. Et puis, j'espère aussi qu'il y aura plusieurs cas. Parce que Titania va revenir, a priori. Il y aura Emil Blonsky. On sait que d'autres personnages risquent d'être présents dans la série. Donc, on verra, mais j'espère que, en gros, la conclusion de ces deux premiers épisodes, ce que je dirais, c'est que maintenant, les deux introductions de She-Hulk et de Jane Walters sont faites, le personnage est symbiosifié, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans
On fait d'excuses, hein.
Ouais, maintenant c'est terminé, il faut des arguments légaux, il faut des jurys, des sélections de jurys, il faut des contre-arguments, des closing arguments, il faut des nuits passées au bar des avocats, à boire un whisky, à discuter de l'affaire, tu vois.
Des objections, Hulk smash objections.
C'est ça. Donc, on espère que ça se... Moi, je le dis quand même, j'ai quand même ces dernières saisons, ces dernières séries, eu des premiers épisodes qui m'ont pas mal enthousiasmé et une chute, le ventre mou des séries Marvel est un petit peu en train de devenir une malédiction. Donc, je t'avoue que je serre un peu les dents et les fesses. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer dans les épisodes à venir. Mais... je garde l'espoir. Je vais dire ça comme ça.
C'est beau.
Merci, Johan, d'avoir discuté de She-Hulk épisode 1 et 2 avec moi. On se fera du coup les épisodes, j'imagine, 2 et 3 3 et 4 dans 2 semaines. Et puis, on verra s'il y a d'autres choses à discuter entre-temps, mais a priori, ça sera ça.
Entre-temps, peut-être pas. Après, ça va commencer à bouchonner avec Star Wars qui va arriver en même temps que la fin de She-Hulk et tout ça.
C'est vrai qu'il y a Andor. C'est quand Andor, Andor
en septembre, là. Donc, mi-septembre, je crois. Je sais plus.
D'accord. Oui, donc ça va se chevaucher. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont... Ça doit être pour ça qu'ils ont décalé à jeudi, She-Hulk.
Il me semble que c'est pour ça,
Parce qu'il y a Andor le mercredi. Et puis, il y a House of the Dragon et Rings of Power qui n'ont pas... De super, de laser ou de punch. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de cette émission. Peut-être qu'on fera impressions. Tu n'as pas vu House of the Dragon ?
Non.
Bon, si jamais tu vois, peut-être qu'on fera genre soit à mi-saison, soit à fin de saison, quelques mots dessus.
Ouais, un petit... Ça marche, ouais.
Et puis The Rings of Power, il y a quand même... tu vois, Power, Super, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça pourrait passer. Bon, écoute, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. Johan, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet ?
Alors, en ce moment, on ne me retrouve que dans Azeroth.
Ah oui, tu as replongé dans
Warcraft. J'en ouvre tout mon temps libre, à l'arrivée de Wotelka Classique.
Ah,
Et même, qui est ma période préférée de WoW. Donc, je n'ai pas résisté à l'appel du roi Lich, de mon roi.
Tu as yankliifié.
Ouais, c'est ça. Et sinon, sur Twitter, UNT_.
Super. Et bien sûr, sur le Discord, où on discute des séries, quand elles sortent, et puis quand l'épisode est disponible, quand l'épisode de Super Laser Punch est disponible. Et puis, on parle de plein d'autres choses aussi sur le Discord. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com pour nous rejoindre et parler de tout ça. Et vous avez tous les liens vers tout ce que je fais en plus sur notepatrick.com. Donc, précipitez-vous pour bénéficier de toutes ces merveilles. On vous remercie, on vous fait des grosses bises et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt. Ciao.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.